France Info.
Et à la une, la confirmation donc de la mort d'Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran. Sa résidence avait été prise pour cible dès hier matin par les frappes américaines et israéliennes. Benjamin Netanyahou disait déjà hier soir avoir vu des photos de son corps. La télévision d'État iranienne l'assure, des milliers de personnes lui rendent hommage à Téhéran. Mais ce n'est pas le cas de toute la population iranienne. Vous entendrez la réaction d'Iraniens joints par France Info. Dans ce journal, on reviendra aussi sur ce conseil de défense qui s'est tenu à l'Élysée hier. La France n'était pas informée de l'attaque. Dans le reste de l'actualité aussi, une nouvelle taxe, 2 euros sur les petits colis venus de pays hors de l'Union Européenne. Et puis, le foot, le PSG, vainqueur du Havre hier soir, il conforte sa place de leader. La mort d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien au pouvoir depuis 1989, a donc été confirmée cette nuit par la télévision d'État en Iran. Les gardiens de la révolution promettent un châtiment sévère à ses meurtriers et décrètent 40 jours de deuil ainsi que 7 jours fériés. 3 aux responsables dont le président vont à présent assurer l'intérim du pouvoir. Une mort d'abord annoncée hier soir par Donald Trump. 2 télévisions israéliennes rapportaient également qu'une photo du corps d'Ali Khamenei avait été montrée au président américain Donald Trump ainsi qu'au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou hier soir à la télévision israélienne.
Ce matin, lors d'une frappe surprise dévastatrice, le complexe du tyran Ali Khamenei a été détruit au cœur de Téhéran. Pendant plus de 35 ans, ce tyran cruel a semé la terreur dans le monde entier, tout en opprimant son propre peuple, et a œuvré sans relâche à la destruction d'Israël. Ce plan est désormais caduque.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors lors de l'annonce de la mort du guide suprême iranien, elle a été accueillie, selon la télévision d'État, par des milliers de personnes qui se sont réunies à Téhéran pour lui rendre hommage. Menoé Pignade a joint pour France Info 3 Iraniens sur place. Leur voix et leur prénom ont été modifiés pour les protéger.
Lorsqu'Afshin parvient à nous contacter, malgré la coupure quasi totale d'Internet, il nous envoie d'abord une vidéo filmée depuis sa fenêtre à Téhéran. Depuis leur balcon, ses voisins célèbrent l'annonce de la mort du guide suprême.
Ils l'ont tué comme un chien. Et là, tout de suite, on est les plus heureux du monde. Tout le monde exulte, il n'y a pas de mots.
Ali, un père de famille qui habite dans la région de Shiraz, est heureux, certes, mais inquiet des bombardements qui frappent son pays.
D'un côté, je suis content que ces personnes brutales soient tuées. Mais en même temps, j'ai peur pour ma famille. Mais j'imagine que c'est le dernier espoir qu'on a d'être libre.
Et pour certains Iraniens, comme Omid, 24 ans, l'assassinat d'Ali Khamenei par les Israéliens et les Américains prive ces dizaines de milliers de victimes d'un procès.
Je voulais vraiment le voir répondre de ses actes devant un tribunal et devant la population et qu'un juge l'envoie en prison parce que mourir dans un bombardement d'une seconde, ce n'est pas assez douloureux.
Cet étudiant espère maintenant que l'armée régulière iranienne soutienne enfin le peuple contre le régime et ses gardiens de la révolution, la milice politique qui contrôle le pays depuis 1979.
Pour France Info. Et l'Iran confirme également ce matin la mort d'un des plus proches conseillers d'Ali Khamenei, Ali Shamrani, ainsi que le chef des gardiens de la révolution. Au total, selon Israël, ce sont 7 hauts responsables qui sont morts dans les frappes. Israël qui subit les répliques venues d'Iran. Les gardiens de la révolution ont promis l'offensive la plus féroce de l'histoire. Les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti dans le centre d'Israël cette nuit à cause de tirs de missiles. Une femme a été tuée à Tel Aviv, selon les secours israéliens. Plusieurs dizaines de personnes blessées. C'est toute la région qui est prise pour cible par les tirs iraniens. Les Émirats arabes unis disent avoir été visés par 137 missiles, 209 drones majoritairement détruits ou interceptés. À Dubaï, les débris d'un drone ont ainsi provoqué un incendie dans un hôtel de luxe. Un incendie s'est également déclaré dans le port de Dubaï et de nouvelles explosions sont entendues ce matin à Dubaï, mais aussi à Manama, à Doha, au Qatar, ainsi qu'en Irak, tout près d'une base américaine. Et cette intervention des États-Unis avec Israël entraîne la perturbation également du trafic maritime dans le Golfe. Le français CMA, CGM et APAG Lloyd, deux des plus grands armateurs mondiaux, ordonnent à leurs navires d'y suspendre leur navigation. Les navires qui vont devoir passer au sud de l'Afrique au niveau du Cap de Bonne-Espérance avec plusieurs milliers de kilomètres kilomètres en plus à parcourir à la clé. Les gardiens de la Révolution ont fermé le détroit d'Ormuz par où transitent habituellement 20% de la consommation mondiale de pétrole. Les pays de l'OPEP+ se réunissent aujourd'hui avec le risque d'une flambée des prix du pétrole et les vols sont annulés en pagaille vers le Moyen-Orient. Air France qui annule ainsi ses liaisons vers Dubaï, Riyad, Tel Aviv et Beyrouth. Et cette intervention des États-Unis et d'Israël en Iran, elle suscite de nombreuses réactions à l'international. Situation suivie de très près par la France, même si le gouvernement déclare ne pas avoir été au cœur des préparatifs de ces frappes. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron et Hélène Terzian.
La France n'a été ni prévenue ni impliquée. Le chef de l'État tient à le faire savoir en ouvrant un conseil de sécurité et de défense réuni à l'Élysée, entouré des ministres concernés, du chef d'état-major des armées et de hauts conseillers. À défaut d'avoir été informé en amont de l'initiative américano-israélienne, le président préfère parler négociation. Il appelle à ce que le travail diplomatique reprenne ses droits. Emmanuel Macron, sur une ligne de crête, il s'inquiète de l'escalade dangereuse pour tout ce qui doit cesser, dit-il. Selon lui, la crise autour du nucléaire et les droits légitimes du peuple iranien à se faire entendre ne peuvent se régler par des frappes. Mais le chef de l'État ne condamne pas l'intervention des États-Unis et d'Israël. Les répliques iraniennes, elles, sont condamnées avec la plus grande fermeté dans une déclaration conjointe entre Paris, Berlin et Londres.
Hélène Terzian, France Info, il est 6h06. Si vous commandez sur Shein, Temu AliExpress ou encore Amazon, vous avez peut-être vu des articles plus chers que d'habitude. À partir d'aujourd'hui, une taxe de 2 euros est appliquée sur les petits colis, c'est-à-dire les commandes de moins de 150 euros qui viennent des pays hors Union européenne. Et Margot Croison, ça pourrait bien décourager les acheteurs que vous avez rencontrés dans des boutiques hier à Châtelet, à Paris.
Les vêtements pour Marie, c'est toujours en magasin. Pour le reste, l'étudiante reconnaît qu'elle commande sur Internet.
Ça m'arrive pour des objets pratiques du quotidien, une coque de téléphone, un objet pour la maison. Sur des choses vraiment très peu chères, de rajouter tout de suite 2 euros. Si en plus après il y a de la livraison, c'est sûr peut-être ça peut me décourager, oui.
Maquillage, vêtements, décoration, Delphine commande régulièrement sur Shein ou Amazon.
Moi, ce sera un frein aussi pour les futurs achats, on va dire. Ce 2 euros, c'est peut-être pour certains une petite somme, mais pour d'autres c'est quand même assez conséquent à la fin du mois par exemple. J'irai voir dans les magasins et puis si je trouve pas, je pense que je serai obligée quand même de commander, mais d'abord je ferai quand même le tour.
Fabienne fait défiler les pulls accrochés sur les cintres. Si la taxe décourage les gens à acheter sur internet, pour elle c'est tant mieux.
Ils devraient taxer plus, beaucoup plus. Quand il n'y aura plus de centre-ville, les gens ils vont pleurer. Je comprends pas qu'on commande tout sur internet sans voir la qualité, sans toucher, sans avoir un contact avec un commerçant. Maintenir les emplois, maintenir un centre-ville, maintenir le contact avec les gens, c'est hyper important.
Reste à savoir quel effet aura vraiment cette taxe de 2 euros. En 2024, 189 millions de petits colis ont été enregistrés en France.
Un reportage Margot Croison. Le Salon de l'agriculture va fermer ses portes ce soir, porte de Versailles à Paris. 62e édition en pleine crise agricole entre dermatose nodulaire et accord avec les pays du Mercosur. Et une fréquentation qui s'annonce en baisse. En tout cas, il y a eu moins 25% de visiteurs enregistrés sur les 4 premiers jours. Le PSG creuse l'écart en tête de la Ligue 1 après sa victoire 1-0 hier soir sur la pelouse du Havre, victoire dans la douleur. Les Parisiens ont désormais 4 points d'avance sur Lens et à présent le PSG va pouvoir souffler un peu, mais pas question de relâcher la pression, selon l'entraîneur Luis Enrique.
Dans le PSG, il n'y a pas match tranquille. Ce n'est pas notre mentalité. Arrive le moment clé de la saison et pour nous, chaque match est important. Est important avoir la possibilité de récupérer des joueurs. Et c'est ça notre objectif, améliorer, parce qu'on est dans un moment particulier avec moins de confiance. Mais ce que nous pouvons assurer à nos supporters, c'est qu'on va essayer jusqu'à les dernières minutes avec tous les cœurs comme on a fait les dernières années. Après, si on rate ou si on marque le but, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on va essayer d'être à notre niveau.
Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, suite et fin de cette 24e journée de Ligue 1 avec 5 rencontres à suivre. En clôture, Marseille accueille l'OL à 20h45. Marseille qui se dote d'un nouveau président pour son directoire, Alban Juster. Le directeur des finances du club remplace Pablo Longoria. Ça le faisait 5 ans que celui-ci était à la tête de l'OM. 5h09 sur France Info. On jette un œil sur la météo avec vous, Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour Diane.
Et c'est un temps plus frais qui nous attend.
Ah, les températures sont en forte baisse ce matin, en particulier dans le nord-est et le sud-ouest. On retrouve même quelques gelées près du relief. Il fait moins 2 degrés à Aurillac, 4 à Lyon, 5 à Paris. Les conditions météo sont calmes. Attention, on a des brouillards ce matin localement denses entre le quart nord-est, le centre-Val de Loire, le massif central et dans le sud-ouest. On va retrouver des éclaircies après dissipation de cette grisaille. Ce sera très ensoleillé dans le sud-ouest, plus nuageux dans le sud-est avec quelques averses entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Et le temps restera encore très nuageux aujourd'hui près des côtes de la Manche avec un petit peu de pluie sur le nord de la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais.
Patricia Charbonnier, on vous retrouve dans 20 minutes pour une nouvelle météo.
France Info, le week-end, c'est ma santé.
Bonjour, c'est Julien Méniel. Tous les week-ends sur France Info, je réponds de manière sérieuse et détendue à toutes les questions que vous vous posez et même à celles que vous ne vous posez pas encore sur votre santé.
C'est ma santé, Julien Méniel, tous les week-ends à 7h20 et 9h20 sur France Info.
À retrouver sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr.
À suivre la réaction de la France à ces attaques israéliennes et américaines sur l'Iran. Paris n'a pas été prévenu ni impliqué dans cette opération, déclare Emmanuel Macron. Le travail diplomatique doit selon lui reprendre ses droits, vous l'entendrez. Mais d'abord, on revient sur cette annonce. Cette nuit, la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien touché dans cette opération militaire.
France Info, 6h, 7h, Diane Ferchit.
Les médias iraniens l'ont donc confirmé ce matin. Ali Khamenei, le guide suprême du régime islamique, a bien été tué dans les frappes menées par Israël et les États-Unis sur l'Iran depuis hier. Les gardiens de la révolution promettent un châtiment sévère, disent-ils, les meurtriers d'Ali Khamenei. Ils décrètent 40 jours de deuil et 7 jours fériés. Une mort qui avait été annoncée un peu avant 23h par Donald Trump, Gwendal Lavina.
Oui, Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort, a écrit hier en fin d'après-midi ici le président américain sur Truth Social, une heure à peine après avoir dit qu'il avait le sentiment que les informations sur sa mort étaient correctes. Donald Trump a donc confirmé que le guide suprême iranien avait été tué dans les frappes conjointes israéliennes et américaines. Donald Trump écrit dans ce long message qu'Ali Khamenei a été incapable d'éviter nos systèmes de traçage. Lui et les autres leaders tués n'ont rien pu faire. Le président américain évoque, je cite, « une justice pour les Iraniens, mais aussi les Américains et tous ceux tués ou mutilés par Khamenei et son équipe de voyous assoiffés de sang. C'est la plus grande chance du peuple iranien de récupérer son pays », affirme encore Donald Trump, qui se redit prêt à accorder l'immunité aux membres des forces de l'ordre qui accepteront de se rendre rapidement. Le président américain parle aussi de la reconstruction de l'Iran, mais prévient que les bombardements continueront toute la semaine ou tant que nécessaire pour arriver à la paix au Moyen-Orient. Dans les heures précédant l'annonce officielle de Donald Trump, plusieurs informations données par les services de renseignement israéliens faisaient état de la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien âgé de 86 ans et au pouvoir depuis 35 ans.
Et les choses se sont aussi accélérées d'un point de vue diplomatique. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est en effet tenue hier soir, l'occasion pour l'ambassadeur iranien à l'ONU de qualifier les frappes israélo-américaines de crime de guerre.
Ce n'est pas seulement un acte d'agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité, a dénoncé Amir Saeed Iravani. À cause de cette attaque armée brutale, des centaines de civils ont été tués et blessés, a-t-il affirmé. Devant ses collègues ambassadeurs, il a aussi évoqué la mort de plus de 100 enfants dans une frappe sur une école. Plusieurs pays du Golfe ont, eux, condamné lors de cette réunion d'urgence les attaques lâches de l'Iran, les ayant visés dans une déclaration commune lue par l'ambassadeur du Bahreïn. Nous tenons le gouvernement iranien totalement responsable de ces attaques et nous rejetons toute explication pour justifier ce comportement hostile et la manipulation des règles internationales, a déclaré l'ambassadeur du Bahreïn au nom des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, du Koweït ou encore d'Oman. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est de son côté inquiété du déclenchement d'une série d'événements que personne ne peut contrôler dans la région la plus volatile du monde.
Gwendal Lavina, correspondante France Info aux États-Unis, cette opération militaire américaine et israélienne sur l'Iran a mis toute la région en état d'alerte. La réplique iranienne a visé non seulement Israël, mais aussi les bases américaines implantées dans les pays du Golfe. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour.
L'objectif de cette opération israélo-américaine, affichée tant par Donald Trump que par Benjamin Netanyahou, est bien de faire tomber le régime iranien.
Oui, et d'ailleurs, les cibles visées par les avions et missiles américains ou israéliens, surtout israéliens, étaient certes militaires, mais aussi politiques. La plupart des cadres du régime iranien ont été individuellement visés, sans doute grâce aux renseignements israéliens qui les suit à la trace, parfois depuis des années. Le complexe du guide suprême Ali Khamenei, dans le centre de Téhéran, a ainsi été visé par une trentaine de bombes et de missiles, au dire de l'armée israélienne. Les images satellites de l'endroit prise dans la matinée et diffusée hier à la mi-journée, montrait une structure complètement détruite, quasiment oblitérée. Hier soir, les Israéliens donnaient pour certaine la mort d'une trentaine de cadres, civils et militaires du régime, parmi lesquels on compterait le principal conseiller pour les affaires de sécurité du guide suprême, responsable du Conseil national de sécurité, le ministre de la Défense iranien, le commandant des gardiens de la Révolution, le patron des services de renseignement ou le chef des services techniques de la Défense, responsable des programmes d'armement en Iran.
Mais l'Iran, sans pouvoir manifestement contrer ses frappes sur son sol, Eric a pourtant répliqué.
Oui, l'Iran a répliqué en bombardant aux missiles et aux drones d'attaque la plupart des bases américaines dans la région, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, en Jordanie et même en Irak. Deux implantations américaines, surtout accueillant le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn et celui du commandement central américain dans la région, au Qatar, ont été ciblés et atteints, parfois à de multiples reprises, notamment la base de la 5e flotte à Bahreïn, touchée au moins 4 fois dans la journée d'hier. L'Iran a également frappé Israël, plus de 200 missiles ont été tirés, la très grande majorité ont été interceptés par les défenses antiaériennes, plutôt efficaces des Israéliens, mais pas tous, certains ont réussi à passer entre les mailles du filet des intercepteurs. On a enregistré de lourdes explosions hier à Tel Aviv et à Haïfa, et encore hier soir à Tel Aviv et dans le centre du pays. Israéliens et Américains disent n'avoir perdu aucun appareil ni aucun soldat dans les échanges d'hier.
Les explications d'Éric Biegala, service international de France Info. La France, elle n'a pas été consultée avant ces frappes d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense hier soir à l'Élysée pour faire le point sur la situation. Le président de la République qui a brièvement pris la parole avant d'ouvrir cette réunion.
Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. L'Iran a répliqué dans de très nombreux pays amis. Nous avons, nombre d'entre eux, des emprises militaires et des ressortissants, avec donc des conséquences sur la stabilité régionale, la paix dans la région et au-delà. La priorité absolue pour nous est évidemment la sécurité de nos ressortissants dans tous les pays qui sont aujourd'hui frappés. C'est ensuite la sécurité de nos emprises militaires et diplomatiques dans l'ensemble de ces pays et ceux qui seraient exposés. Et c'est évidemment aussi la sécurité sur le territoire national. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Deuxièmement, c'est d'être aux côtés de tous les pays qui sont aujourd'hui touchés par la riposte iranienne, ou qui sont menacés par celle-ci, dans leur intégrité territoriale, leur souveraineté. J'ai eu l'intégralité de ces pays ces dernières heures au téléphone, je vous en rendrai compte, et le ministre des Affaires étrangères sans doute aussi. Et enfin, je souhaite que nous puissions prendre toutes les initiatives utiles pour que le travail diplomatique reprenne ses droits. Nous avons d'ores et déjà appelé à une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique, car nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien, de l'activité balistique, des déstabilisations régionales se régleront simplement par les frappes. Et évidemment aussi les droits légitimes du peuple iranien à se faire entendre, ce qu'il a exprimé ces derniers mois encore en étant terriblement réprimé. C'est de pouvoir décider lui-même de son destin. Et c'est aussi une des choses que nous devons tout faire pour défendre.
Emmanuel Macron, et un peu plus tôt dans la journée, le chef de l'État avait affirmé dans un message sur le réseau social X que l'escalade en cours devait cesser et que la France était prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches. Réaction saluée par Marine Le Pen, la chef des députés du RN, en marge d'un déplacement dans le Var hier.
Il est évident que le très grand risque d'une opération telle que celle-là, c'est l'escalade. Et je pense que le fait que Bahreïn aujourd'hui soit touché, le fait que Abu Dhabi soit touché, démontre qu'il y a un risque d'escalade. Et je pense que tous ces pays, d'ailleurs, craignent énormément, en réalité, ce risque d'escalade. Donc il a absolument raison de dire cela. Le président de la République dit qu'il est prêt à déployer des moyens pour défendre les intérêts de la France. Et il est évident que le danger, c'est qu'un certain nombre de bases françaises puissent être victimes de tirs, victimes de bombardements. Et donc, il a dit qu'il mettait en place les conditions pour que les intérêts de nos compatriotes et nos intérêts nationaux, notamment au travers de nos bases militaires, soient protégés. Nous espérons que la décision des États-Unis a été prise en toute connaissance de cause, après une évaluation en profondeur des implications de leur décision. Quoi qu'il en soit, nous sommes solidaires de nos alliés américains. Nous regrettons quand même que cette intervention marque un peu plus encore le retour d'un ordre international qui est un peu marqué par l'unilatéralisme. Et nous en tirons quand même une conclusion, c'est que reconstruire une diplomatie préventive s'avérera à nos yeux absolument nécessaire et même une priorité majeure pour le monde de demain, à laquelle la France se doit évidemment de participer, voire même d'être leader.
Marine Le Pen, la chef des députés, Rassemblement National.
BMW. 3 notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290€ par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M-Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers, c'est accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
France Info, 6h-7h.
Dans une minute, le peuple iranien peut-il parvenir à prendre le pouvoir, comme l'y appellent Donald Trump et Benjamin Netanyahou? On sera aussi en Israël, où la population soutient dans sa très grande majorité cette opération militaire, malgré les répliques iraniennes. Et puis, tout autre sujet, juste avant 6h30, le Royaume-Uni et les suites de l'affaire Epstein après l'arrestation de l'ancien prince Andrew. Mais pour l'instant, il est 6h20, l'heure de l'essentiel de l'info. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
À la une, la mort du guide suprême et de ses proches en Iran.
L'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés. Ali Khamenei, tué hier dans les frappes des États-Unis et Israël. Les gardiens de la révolution promettent un châtiment sévère. Les bombardements vont se prolonger tout au long de la semaine, selon Donald Trump. L'Iran réplique. De nouvelles explosions entendues en Israël et dans les monarchies du Golfe. La mort d'Ali Khamenei qui a suscité des manifestations de joie à Téhéran. Des habitants applaudissent à leurs fenêtres, mettent de la musique. À Los Angeles, où la diaspora iranienne est importante, des personnes dansent dans les rues. La guerre en Iran stabilise le Moyen-Orient et l'approvisionnement mondial en pétrole. Le prix à la pompe peut donc augmenter. Réunion aujourd'hui d'urgence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés. La taxe sur les petits colis entre en vigueur aujourd'hui en France. La France veut donc lutter contre l'afflux massif de petits colis, notamment venus d'Asie. C'est 2 euros en plus par article. Les produits de l'UE ne sont pas concernés.
France Info. L'attaque israélienne coordonnée avec les États-Unis sur l'Iran a donc décapité le pouvoir iranien avec la mort du guide suprême Ali Khamenei. Hier soir, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a appelé les Iraniens à renverser le régime de Téhéran comme Donald Trump l'avait fait également un peu plus tôt. Mais pour Azadeh Halemi, porte-parole du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, le peuple iranien ne peut compter que sur lui-même.
Ce n'est pas des bombardements et une guerre étrangère ou, a fortiori, la mort de Khamenei qui mènera ou aboutira au renversement de ce régime. Cela ne doit venir que du peuple iranien et de l'intérieur de l'Iran, de la volonté du peuple iranien. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, nous sommes bien entendu très inquiets sur le sort des civils. Nous avons appris que une école avait été touchée. Il y a eu des dizaines de jeunes fillettes qui ont été tuées dans cette école. Donc, nous sommes dans une situation très délicate et en même temps très bouleversante. C'est ça qui est très important. Mais en ce qui concerne le renversement ou le changement de régime, ça ne viendra pas par l'intervention étrangère des États-Unis ou d'aucune autre puissance étrangère.
Et que pensez-vous justement des appels lancés à la population iranienne par le président américain Donald Trump, mais aussi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'adressant aux citoyens iraniens, ne ratez pas cette occasion, sortez dans les rues pour terminer le travail.
Personnellement, je pense que ils envoient des messages... ils l'ont fait déjà, l'aide arrive, tout ça. Ils font beaucoup de d'appels venant d'étrangers au peuple iranien. Mais il faut savoir que nous avons été témoins lors des guerres de 12 jours que le peuple iranien ne peut pas ou n'a pas le pouvoir de sortir dans les rues. Ce n'est pas possible. Rien que tout à l'heure, j'ai parlé avec une amie, j'ai dit « Comment vont ta famille ?» Elle a dit « Bah écoutez, ma famille a tout quitté, a quitté tout le travail, tout ce qu'ils avaient, le commerce, ils ont tout fermé, ils sont partis dans le nord de l'Iran, près de la mer Caspienne, pour s'abriter. » Donc ça, c'est ce qui se fait automatiquement de la part d'une population qui reçoit des bombes sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas maintenant ou aujourd'hui ou demain que le peuple iranien sortira dans les rues pour se soulever contre le régime, bien entendu, pour le renverser. Ça prendra un temps le temps qu'il faudra pour que le peuple puisse s'organiser à l'intérieur, sur le terrain, pour agir contre les forces répressives qui existent toujours. Khamenei, même s'il meurt demain, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. C'est la totalité la base fondamentale du régime. Elle ne disparaît pas avec Khamenei. Je pense que faut pas se tromper. C'est pas parce que Khamenei est mort que le régime tombera aussi facilement du jour au lendemain. Il faut un temps, il faut que le peuple se batte, il faut que les gens s'organisent de manière structurée et organisée pour pouvoir agir et renverser ce régime. L'ultime solution viendra vraiment de l'intérieur de l'Iran, de la résistance organisée et le peuple iranien.
Azadeh Halimi, porte-parole du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, avec Julien Langlais sur France Info. Et 24 heures après la première frappe israélienne sur le territoire iranien, suivie des bombardements de l'aviation américaine, les Israéliens attendent avec impatience l'épilogue de cette nouvelle guerre malgré la riposte de Téhéran qui a obligé la population à se réfugier dans les abris. Une majorité des Israéliens soutiennent l'offensive. France Info, reportage Thibault Lefebvre.
Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cette guerre contre l'Iran est l'aboutissement de 30 ans de combats politiques. Pour son opposition, c'est une décision juste et nécessaire pour débarrasser le pays de son ennemi le plus puissant. La population israélienne est majoritairement au diapason de sa classe politique. Hier matin, Michel priait à la synagogue quand il a entendu les premières alertes.
Netanyahou, on le remercie parce que c'est un chef de guerre qui vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, cette guerre, il l'a menée. Et puis Trump, pour nous ici, les Israéliens, vous savez, Trump, c'est comme un miracle. Voilà, il est arrivé au moment où il faut l'arriver. Trump, il a fait changer la donne dans ce Moyen-Orient et on verra bien si on avait tous raison de faire tout ça, mais probablement pour l'instant on est dans la bonne direction.
Même sentiment pour Dor, il a passé la journée de samedi dans un abri à 300 mètres de chez lui.
Nous on pense que la frappe ça va, parce que le temps qu'on leur donne de reconstruire des missiles, ça pourrait être beaucoup plus agressif dans le futur, c'est pour ça c'est le plus tôt possible, c'est mieux.
Et Dor, comme Michel, attendent désormais de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou qu'ils aillent au bout de leur projet de renverser le régime iranien pour ne plus subir, disent-ils, une menace qu'ils qualifient tous les deux d'existentielle.
Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem de France Info.
6h28 sur France Info, il fait 2 degrés à Nancy.
La famille royale britannique n'a plus la côte au Royaume-Uni, secouée par l'affaire Epstein et l'arrestation de l'ex-prince Andrew, le frère du roi Charles placé sous contrôle judiciaire, accusé d'avoir fourni des informations confidentielles aux criminels sexuels. La police enquête aussi sur des faits d'agression sexuelle le concernant. Gaëlle Joly, vous êtes notre correspondante à Londres, avec une chute de 20 points en quelques mois, à 45% d'opinion favorable, la monarchie britannique est à son plus bas niveau.
Même chez les plus fervents supporters de la couronne, le scandale Andrew a fait des ravages. Devant Buckingham Palace, la colère et les doutes ont pris le dessus. Vous pensez que tout ça, c'est très mauvais pour la monarchie ?
Oui, je pense que c'est fini maintenant. Pour tous les fans de la famille royale comme moi je suis énormément fan.
Massive fans.
Comment voulez-vous qu'on fasse pour expliquer aux enfants? Ils veulent savoir pourquoi Andrew a été arrêté. On ne sait pas quoi leur dire. Ce n'est pas très bon tout ça.
Il a toujours eu des problèmes, aussi loin que je me souvienne. Il a toujours eu un peu de problèmes et je pense qu'à l'époque, il y a 30 ou 40 ans, on s'en tirait plus ou moins avec ce genre de choses, quoi qu'il fasse. Mais de nos jours, c'est impossible.
À l'origine de cette arrestation, un homme, Graham Smith, le dirigeant du mouvement citoyen République. C'est l'une des principales organisations anti-monarchiques britanniques et c'est lui qui a déposé la plainte contre Andrew.
Vous savez, une grande partie de tout ça a déjà été rapportée plusieurs fois, mais la police ne voulait tout simplement pas enquêter. Ils ont un très mauvais bilan avec les membres de la famille royale. Mais maintenant, ils ont franchi une ligne et réalisé que cela n'est plus tenable.
Pour Graham Smith, même le roi Charles III n'a pas été à la hauteur.
Ce qu'il a fait, c'est demander à ses attachés de presse de publier une déclaration. Ce qu'il doit faire, c'est se tenir devant les journalistes, être très catégorique et dire « Je suis bien conscient que des choses graves ont mal tourné. Clairement, nous aurions pu être transparents plus tôt. Nous devons maintenant ouvrir nos dossiers. Nous devons permettre à la police de suivre toutes les pistes de preuve où qu'elles mènent et donner un témoignage à la police. »
Selon les derniers sondages, un tiers des Britanniques soutient l'abolition de la monarchie, un chiffre en constante augmentation, notamment chez les jeunes.
Gaëlle Joly, France Info.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi? Sa conduite? Son look so British? Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E finition Blackyard des 320 euros par mois. Premier loyer de 320 euros après déduction de la prime C2E de 345 euros. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Et le temps est calme, Patricia Charbonnier.
Un petit peu plus frais ce matin, on retrouve même quelques gelées près du relief cet après-midi. Les températures seront encore très douces dans le sud. Météo France prévoit 18 degrés à Biarritz, 14 à La Rochelle, 13 à Paris, 11 degrés à Rouen et côté ciel. Attention au brouillard ce matin. Une fois ces brouillards dissipés, les éclaircies vont s'imposer, sauf près de la Manche où le temps restera gris et humide.
France Info, on est très en retard, il est 6h32.
France Info. Diane Ferchit.
En Iran, la transition à la tête du pays est désormais assurée par trois hauts responsables dont le président annonce ce matin de la télévision d'État après la confirmation de la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué dans cette guerre menée depuis hier matin par les États-Unis et Israël. Des milliers de personnes rendent hommage au guide suprême à Téhéran selon la télévision d'État. Justice a été rendue, affirme de son côté le ministre israélien de la Défense. Et qu'en pensent les Iraniens vivant en France, à Lyon, où une poignée d'entre eux se rassemblaient hier, manifestation régulière pour demander la chute du régime. Il y avait parmi eux Ebrahim, en France depuis 10 ans.
Je pense que c'est nécessaire parce que c'est pas possible de se débarrasser de ce régime pacifiquement. Bien évidemment, tous les pays étrangers, ils ne pensent que leur propre intérêt. Mais je vois un genre d'intérêt en commun entre le peuple iranien et les pouvoirs extérieurs, les pouvoirs européens ou américains. C'est une occasion historique qu'on a trouvé ce point en commun.
En tout cas, vous avez de l'espoir aujourd'hui.
Oui. Je suis plein d'espoir parce que je crois au peuple iranien, à leur culture, à leur histoire, qui peut leur donner une vision de l'avenir, une vision de futur. J'espère qu'on y arrive.
Et l'Iran qui poursuit ses répliques ce matin sur Israël avec de nouveaux tirs de missiles. Les sirènes se font encore entendre dans le centre du pays. Des répliques aussi dans la région sur les Émirats Arabes Unis. Des explosions entendues au Bahreïn, à Dubaï, ainsi qu'au Qatar. La France, elle n'a été ni prévenue ni impliquée dans ces frappes, c'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron à l'issue d'un conseil de défense à l'Élysée. Le travail diplomatique doit, selon lui, reprendre ses droits. Et à l'ONU, dont le conseil de sécurité s'est réuni en urgence hier, l'Iran a dénoncé un crime de guerre après la mort de civils dans une de ses attaques. Le premier tour des municipales J-15 est à Perpignan après le président du RN, Jordan Bardella, hier venu soutenir le sortant Louis Alliot. C'est Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise qui sera dans la ville cet après-midi. Duel à distance pas tout à fait du hasard. Lise Rosweil, ses meilleurs ennemis comptent bien installer le match à un an de la présidentielle.
On n'a pas fait exprès, mais ça tombe bien, sourit un cadre du Rassemblement National. Un duel de meeting à quelques heures d'intervalle, comme le face-à-face que le RN et LFI prédisent au second tour de la présidentielle. L'affaiblissement du centre et de la droite, les divisions à gauche, tout leur fait espérer un tel match. Et ils font leur maximum pour l'installer, car chacun est persuadé que l'autre est leur meilleure chance de l'emporter. Jordan Bardella multiplie donc les attaques, appelle au cordon sanitaire contre LFI après la mort du militant nationaliste Quentin Derenque. Et encore hier, lors de son meeting, il s'adresse directement à son rival du week-end.
Monsieur Mélenchon, lorsque vous affirmez que vous ne renierez pas vos amis et camarades de la Jeune Garde, lorsque vos députés encensent le mouvement terroriste du Hamas, lorsque vous appelez à l'insurrection, vous n'êtes pas la République, vous en êtes la honte.
Attaqué de toutes parts, LFI insiste dans sa stratégie et présente le meeting d'aujourd'hui comme la première étape de la riposte antifasciste. Jusqu'où ses meilleurs ennemis iront-ils ? Au RN, les stratèges ont conscience qu'il faut frapper LFI sans l'anéantir, l'affaiblir sans l'empêcher d'accéder au second tour de la présidentielle.
Lise Rosweil pour France Info. Faire diminuer le nombre d'achats sur les plateformes Chine, Temu, AliExpress ou encore Amazon, c'est ce que vise la taxe sur les petits colis à l'entre en vigueur aujourd'hui. 2 € par catégorie d'articles contenus dans les paquets. Elle concerne les importations depuis les pays hors Union européenne. 6h35, merci d'être avec nous sur France Info.
France Info Sport, avec le Schneider Electric Marathon de Paris. Courons ensemble vers un avenir plus propre.
Les sports avec la 24e journée de Ligue 1 de foot et c'est l'une des dernières chances ce soir pour Marseille de sauver sa saison en championnat. L'OM reçoit l'OL, un Olympico à gros enjeux. En cas de victoire, les Marseillais, 4e actuellement, reviendraient à 2 points de Lyon et du podium. Les supporters olympiens, eux, attendent donc leur équipe au tournant, Nicolas Perronnet.
Il a traversé la France pour soutenir son équipe. Owen est même venu hier jusqu'à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, pour encourager les joueurs. Car ce supporter nordiste de Marseille le sait bien, cet Olympico peut changer beaucoup de choses.
Ça va définir la fin de saison. Si on gagne, on repart sur une bonne dynamique. Si ça perd, on va s'enfoncer encore plus. Et la colère va commencer à exploser, je pense.
Une colère contenue pour l'instant chez les supporters olympiens. Malgré les turbulences, les crises à répétition et les résultats décevants, c'est plus de la lassitude, explique Bilot. L'OM peut encore pimenter sa fin de saison en Coupe de France et en championnat à condition de l'emporter ce soir. Mais lui, n'y croit plus trop.
On ne voit pas la saison se finir correctement, à part peut-être un miracle en coupe. De Zerbi est parti de lui-même, il y a eu un changement de direction qu'on a, personne n'a compris, c'est devenu n'importe quoi et on se dit bah voilà, c'est ce que c'est faire de mieux notre club, la crise. Vu la pente descendante dans laquelle on est, tout le monde est défaitiste, donc finalement, à eux de nous faire mentir.
À eux, les joueurs, et aussi à lui, le nouvel entraîneur, l'ancien défenseur marseillais Habib Bey, fera ce soir ses grands débuts à la tête de l'OM au Vélodrome. Après une première défaite à Brest le week-end dernier, la semaine, il l'a passé avec son groupe en Espagne, à Marbella, pour accélérer la cohésion, imprimer sa patte, mais aussi dédramatiser l'enjeu autour de ce match.
L'idée, c'est aussi de considérer qu'il reste 11 matchs avec celui-ci, 33 points à prendre et que le championnat est très très long. La victoire nous amènera à continuer à travailler. Un autre résultat ne remettrait pas en question tout ce qu'on a mis en place depuis qu'on est arrivé. Et c'est un match exceptionnel à vivre ici au Vélodrome. Lorsque vous êtes joueur de l'Olympique de Marseille, vous ne pouvez pas rêver mieux que jouer le duel des Olympiques un dimanche soir devant votre public. Aujourd'hui, il n'y a pas de crainte à avoir de notre part. Je pense que lorsque vous êtes l'Olympique Lyonnais et que vous venez au Vélodrome, c'est un vrai challenge aussi pour eux.
À la différence près que les Lyonnais, eux, resteront sur le podium ce soir, quoi qu'il arrive. L'OM, en revanche, en cas de défaite, s'en éloignerait peut-être définitivement.
Nicolas Perronnet, OM Lyon, coup d'envoi 20h45. Le mois de mars marque la fin de la trêve hivernale pour les épreuves de course à pied. Et si la pratique en milieu urbain reste encore majoritaire, le trail gagne de plus en plus d'adeptes. Le nombre de finishers, les coureurs qui ont passé une ligne d'arrivée a doublé en passant désormais, Nouredine Zidane, la barre du million selon le dernier observatoire du running.
C'est au sortir du premier confinement à l'été 2020 qu'Harmonie a découvert le trail. Une sortie en forêt de Fontainebleau avec son club d'athlétisme et depuis, la quadragénaire a troqué sa paire de running pour une autre de trail et parfois dévalé jusqu'à une quarantaine de kilomètres en montagne.
Ce que j'ai beaucoup apprécié sur le trail, c'était surtout en fait le côté nature. De ne pas avoir le chrono, là j'ai le stress du chrono par rapport aux courses sur route, et la variation de terrain, que ce soit les côtes, les descentes, le plat, et de pouvoir gérer en fait un effort avec avec les sensations.
Aujourd'hui, la Fédération française d'athlétisme évalue à environ 5000 le nombre de courses de trail, près d'un millier de plus que les épreuves sur bitume. Le trail plus seulement réservé aux montagnards et à l'image peut-être moins austère que par le passé, selon Benoît Grassini, cofondateur de Finishers, une plateforme recensant les principales courses en France et en Europe.
Aujourd'hui, si vous regardez la nouvelle génération de trailers comme Mathieu Blanchard ou même des influenceurs comme Clem Kikour qui aujourd'hui s'affichent sur des grands trails en ultra-trail, c'est devenu quelque chose qui est aussi un peu trendy et qui attire des nouveaux typologies d'athlètes, des célébrités, des influenceurs et qui donc font aussi mettre en lumière cette pratique et font qu'il continue à y avoir de plus en plus de gens qui le pratiquent.
Sans compter le rôle moteur d'épreuves de plus en plus médiatisées, des ultra-trails, courses de plus de 80 km comme la Saint-Élion, la Diagonale des Fous ou le prestigieux UTMB à Chamonix et sa directrice Isabelle Poletti qui travaille sur l'impact environnemental de l'événement.
Nos inscriptions sont au tirage au sort parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a largement plus de demandes que de places. Et puis, au-delà de ça, on a des règles sur les déchets, sur la gestion de l'eau et maintenant sur le voyage et la mobilité. Ça consiste en donner un avantage au tirage au sort, 30% de chance en plus aux coureurs qui s'engagent à venir depuis chez eux sur le lieu de l'événement de manière plus vertueuse.
Pour sa prochaine édition fin août, l'UTMB a même battu un nouveau record de préinscription, 26 000, soit 4 000 de plus que l'an passé.
La folie du trail, reportage signé Noureddine Zidane. Dans les prochaines minutes, on revient bien sûr sur cette opération militaire en Iran, opération qui suscite l'espoir chez la diaspora iranienne ici en France. Mais d'abord, quelle réaction cette riposte iranienne a-t-elle provoquée dans la région ?
France Info, 6h, 7h, Diane Ferchit.
Avec cette guerre entre Israël soutenue par les États-Unis et cette guerre avec l'Iran, c'est donc tout le Moyen-Orient qui est en état d'alerte maximale. Bonjour Frédéric Saïs de la rédaction internationale.
Bonjour.
La riposte iranienne a eu pour effet de souder les pays arabes du Golfe, souder contre Téhéran.
Oui, oubliez les tensions de ces dernières semaines entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, oubliez les rivalités entre le Qatar et Bahreïn, tous unis contre l'Iran après les tirs de riposte de Téhéran, tirs de drones et de missiles vers les pays arabes qui accueillent des bases américaines. Le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite disent avoir intercepté de nombreux projectiles iraniens. La diplomatie saoudienne condamne des attaques iraniennes lâches, les Saoudiens se disent prêts à riposter militairement. Mais ce sont les Émirats Arabes Unis et Bahreïn qui ont été le plus sévèrement visés par l'Iran. À Dubaï comme à Manama, des immeubles résidentiels ont été frappés par des drones kamikazes iraniens. Est-ce un hasard ? Les Émirats et Bahreïn, ce sont les deux seuls pays du Golfe qui ont établi des relations avec Israël. C'était en 2020 les accords d'Abraham signés sous la houlette des États-Unis.
Et finalement, Frédéric, l'Iran n'a pas trouvé beaucoup de solidarité au sein du monde musulman.
Non, c'est vrai, les soutiens se font rares. Alors il y a l'Irak, pays à majorité chiite, tout comme l'Iran, qui a dénoncé, je cite, « l'agression injustifiée menée par Israël et par les États-Unis ». Le Pakistan s'est aussi placé du côté de Téhéran. Mais pour le reste, de nombreux États ont refusé de choisir, à l'image de l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, qui appelle à la désescalade et qui se propose comme médiateur. À noter aussi les mots très durs du Maroc contre l'Iran. Dans un communiqué, la diplomatie marocaine fustige, je cite, « l'abjecte attaque iranienne ». Le Maroc, qui est le seul pays du Maghreb à avoir normalisé ses relations avec Israël.
Frédéric Saïs du service international pour France Info. Et cette guerre, elle pourrait durer. C'est en tout cas ce que laisse entendre Donald Trump. Il a appelé les Iraniens sur place à prendre le pouvoir face au régime. Et en France, comment se projette cette diaspora iranienne ? Reportage à Paris avec trois Iraniens que vous avez rencontrés, Caroline Félix.
Ava est ingénieur près de Paris. Ses grands-parents, eux, vivent à Téhéran, à côté d'un centre de recherche nucléaire.
Et ça a été frappé et puis non, on n'a pas pu les contacter. Non, on n'a pas de nouvelles de nos grands-parents.
Malgré les incertitudes, elle soutient les frappes.
Ce contexte nous déchire le cœur. On est frappé par deux pays étrangers. Néanmoins, on paye le prix pour être libéré enfin après 47 ans de cette régime tyrannique.
Payer le prix fort, c'est-à-dire perdre des proches potentiellement, Ava y est prête depuis la répression
sanglante de janvier. Sa famille avait participé à la contestation.
Mes parents et ma famille ont manifesté dans la rue. Pendant 5 jours, j'ai eu 0 de nouvelles de ma famille. Jusqu'à ce qu'une amie de ma mère a pu avoir un VPN et a pu m'appeler. J'ai pu comme ça parler 30 secondes à ma mère. Elle a dit « je suis en vie, mais j'aurais préféré ne pas être là après tout ce que je vois ». Chaque personne qu'on connaît a perdu quelqu'un dans sa famille. C'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Donc, si je perds un proche dans cette guerre, ils seront partis de la manière qu'ils souhaitaient pour la liberté d'Iran.
Depuis janvier, le régime est sur la sellette, estime Tirdad, cheveux gominés, costume impeccable, rencontré dans le sud de Paris.
Il n'y a pas de choix avec cet horrible massacre qu'ils ont fait. Ils n'ont plus le droit de rester sur le territoire iranien.
Alors oui, il s'inquiète pour ses proches et redoute la guerre, mais il veut croire que ces frappes sonnent la fin d'un régime religieux.
Moi, à mon avis, ça va être la période de renaissance dans le Moyen-Orient.
Mais alors à quand cette renaissance? Sayed, iranien de 26 ans, donne quelques semaines au régime.
Il y aura 2 semaines d'attaque. Et quand le régime sera assez faible, le peuple va descendre dans la rue pour terminer le travail.
Il reprend ainsi les consignes de Donald Trump et de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran. L'étudiant ne croit pas au scénario à l'irakienne avec une occupation de l'armée américaine.
Parce que les Iraniens sont unis. Ils seront tous dans la rue pour reprendre le pouvoir.
Quant au soutien du régime, il représente désormais une minorité, balaye le jeune homme. Les Iraniens sont trop remontés à cause de la répression, mais surtout à cause des difficultés économiques, d'après lui.
Reportage signé Caroline Félix pour France Info. Il est 6h moins le quart. Merci d'écouter France Info. On va revenir évidemment dans les premières minutes sur la situation en Iran ce matin après la mort confirmée du guide suprême du pays. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin, c'est avec vous Sarah Ders et à la une, cette riposte de l'Iran et des missiles tirés vers Israël.
Des sirènes d'alerte ont retenti dans le centre du pays. Des attaques également sur des bases américaines et les pays du Golfe. De son côté, l'armée israélienne poursuit également ses bombardements sur des sites militaires en Iran et ça va durer toute la semaine, promettent les États-Unis. À Téhéran, des milliers de personnes pro-régime rendent hommage à Ali Khamenei, tué hier par les États-Unis et Israël. 3 hauts responsables, dont le président Massoud Pezeshkian, vont assurer la transition en Iran. Conséquence de la guerre, des milliers de vols annulés vers le Moyen-Orient. Le 62e salon de l'agriculture s'achève aujourd'hui. Moins fréquenté cette année et marqué par la colère agricole. Les syndicats dénoncent une trahison inacceptable après la décision de l'Union européenne d'appliquer le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Pablo Longoria remplace à la tête de l'OM par Alban Juster, nommé président du directoire par intérim, juste avant la rencontre ce soir de Ligue 1 de football Marseille-Lyon à 20h45.
France Info. La télévision d'État iranienne a confirmé au cours de la nuit à la mort d'Ali Khamenei. Les gardiens de la révolution ont, eux, promis un châtiment sévère à ces meurtriers. Un peu plus tôt, c'est Donald Trump qui avait déclaré que l'ayatollah Khamenei était mort dans ses frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Des télévisions israéliennes avaient, elles, rapporté qu'une photo du corps du guide suprême iranien avait été montrée au président américain ainsi qu'au premier ministre israélien. Et ce matin, la télévision d'État iranienne fait état de milliers de personnes réunies à Téhéran pour rendre hommage à Ali Khamenei. Alors, comment la mort du guide suprême a-t-elle été accueillie? Shavosh Ghazi est le correspondant de France Info sur place.
La confirmation de la mort de l'ayatollah Khamenei a été officiellement donnée par la télévision à 5h du matin, 2h30 donc heure française. Il se trouvait dans sa résidence en compagnie du chef des gardiens de la révolution, le général Pakpour, et du chef du conseil de guerre, l'amiral Ali Shamkhani, qui ont été également tués dans les premières frappes israéliennes qui ont visé la résidence officielle du guide suprême. Hier soir, après l'annonce de la mort de l'ayatollah Khamenei par le président Trump, on a pu entendre des slogans lancés depuis les fenêtres de certains habitants de Téhéran qui criaient par exemple au dictateur, ou des scènes de joie dans Téhéran mais aussi dans les villes de province. Sur certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on a pu voir des gens qui dansaient dans la rue. Et puis ce matin, des foules se rassemblent dans le centre de Téhéran depuis 2 heures maintenant, et puis aussi dans la ville de Mashhad, en signe de deuil donc à la mémoire de l'ayatollah Khamenei qui a dirigé le pays depuis 1988.
Shavosh Ghazi, correspondant de France Info en Iran. Le guide suprême iranien Ali Khamenei avait 86 ans. Cette attaque d'Israël et des États-Unis met donc fin à 36 années d'un règne brutal pour le peuple iranien. Erwan Chassin, Ali Khamenei est entré dans le cercle du pouvoir après la révolution iranienne et la chute du Shah d'Iran.
C'est en 1979 que l'ultra-conservateur Ali Khamenei débute sa carrière politique en tant que vice-ministre de la Défense. Deux ans plus tard, le grand adepte de l'ayatollah Khomeini accède à la présidence de la République islamique, rôle en partie symbolique. C'est à la mort de l'ayatollah en 1989 qu'Ali Khamenei est désigné à son tour guide suprême, soit la plus haute autorité du pays.
En Iran, c'est l'actuel président de la République islamique Ali Khamenei qui a été désigné pour succéder à l'imam Khomeini.
Moi-même, en vérité, je ne suis pas digne de cette fonction. Peut-être que vous aussi, messieurs, vous le savez.
Son règne est marqué par un durcissement progressif du régime. Aidé par les gardiens de la révolution, il impose un pouvoir religieux très fort où toute dissidence est écartée ou réduite au silence.
Des affrontements violents ont eu lieu à Téhéran. Un étudiant a été tué à Tabriz. Comme il y a 20 ans, on crie « Abat le despotisme ».
1999, 2002, 2009, les mouvements protestataires sont brutalement réprimés. En 2022, la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs à cause d'un port du voile jugé inapproprié marque un tournant. Une immense vague de protestations de 40 jours portée par les femmes déferle. La répression du guide suprême fera officiellement plusieurs centaines de morts. Mais c'est au début de ce mois de janvier qu'elle a été la plus effroyable, cette répression. Ici, les manifestants tentent de fuir les balles des gardiens de la révolution et appellent à la mort d'Ali Khamenei. Le 3 janvier dernier, le guide suprême n'a exprimé aucune pitié.
On ne peut rien obtenir en discutant avec un manifestant. Ce n'est pas utile. Il faut remettre le fauteur de trouble à sa place.
Des ONG estiment pourtant qu'au moins 30 000 personnes ont perdu la vie en deux jours de mouvement populaire.
Le peuple iranien ne se soumettra pas.
À l'international, en près de 40 ans de pouvoir, Ali Khamenei a toujours maintenu une ligne de confrontation avec les pays occidentalisés. Et notamment les États-Unis et Israël.
Si les États-Unis décident d'intervenir dans ce domaine de manière militaire, le peuple de la République islamique répondra sans aucun doute.
Les tensions récentes entre le guide suprême, Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont inscrites dans le contexte du programme nucléaire iranien, une menace imminente selon les États-Unis et Israël, qui ont donc décidé conjointement d'y mettre fin ce week-end en tuant Ali Khamenei.
Les précisions d'Erwan Chassin pour France Info. Et à présent, le processus de transition à la tête de l'Iran va commencer dans la journée. C'est ce qu'annonce le chef de la sécurité iranien. Les gardiens de la révolution qui ont décrété 40 jours de deuil et 7 jours fériés après la mort d'Ali Khamenei. Trois hauts responsables dont le président vont donc à présent assurer le pouvoir en Iran. Pour Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, la mort de Khamenei est historique pour trois raisons.
C'est historique d'abord parce que les Américains démontrent, pour la énième fois d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, qu'ils sont les seuls au Moyen-Orient à pouvoir intervenir de manière décisive. C'est vrai sur le plan politique, mais c'est vrai aussi sur le plan militaire, la preuve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est historique parce que c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël en 48 que les Américains et les Israéliens se battent de concert dans une alliance militaire complète, de manière offensive. Il ne s'agit plus seulement d'une protection américaine d'Israël ici ou là. Et enfin, trois, regardez à quel point aujourd'hui, sur le plan militaire bien évidemment, mais même sur le plan politique en réalité, l'Iran est seul, et que les Américains soient capables, d'abord et la volonté, mais la capacité d'aller neutraliser, en fait, d'anéantir le chef d'un État quand même plus difficile à toucher que ce qui s'était produit avec Maduro au Venezuela il y a encore quelques semaines, en dit long sur ses rapports de force.
36 ans de pouvoir à la tête de l'Iran est supprimé, j'ai pas envie de dire d'un claquement de doigts, mais parce que les États-Unis ont décidé de le faire.
Oui, non, mais absolument. C'est pour ça que je veux dire, alors, bien évidemment, on peut soutenir ou pas la politique américaine. Franchement, Trump n'est pas un parangon pacifiste ou humaniste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est celui des rapports de force. Encore une fois, j'insiste, hein, au Moyen-Orient, contrairement à ce qu'on a beaucoup trop souvent entendu, mais c'est vrai d'ailleurs dans d'autres parties du monde. Je reviens encore sur ce qui s'est passé à Caracas récemment. Les BRICS n'existent pas. Il faut cesser de considérer que face aux États-Unis, il existe aujourd'hui une espèce de pôle cohérent qui pourrait modifier les intentions ou la capacité américaine. Donc oui, je rejoins ce que vous dites aujourd'hui en Iran comme Alors, pas partout dans le monde, mais en Iran, comme dans la plupart des régions du monde aujourd'hui, les États-Unis restent, et de loin, la première puissance.
Alors, sans trop s'avancer sur les conséquences, est-ce que ça peut modifier de manière assez radicale les rapports de force dans cette région et la sécurité, l'environnement sécuritaire, évidemment, pour Israël ?
Alors, si le régime tombe, oui. Mais je vais peut-être vous surprendre, ce n'est pas parce que Khamenei a été éliminé que le régime va nécessairement, de manière mécanique, chuter. Je pense que c'est un coup extrêmement dur. C'est sans doute l'un des coups les plus durs qu'il a pris jusqu'à présent, depuis 1979. Mais d'abord, Khamenei avait organisé sa succession, d'une part. D'autre part, c'est un régime qui ne tenait pas que par la tête. Hein, on a souvent comparé avec l'Irak de Saddam Hussein et d'autres despotes comme Kadhafi en Libye, etc. Là, on a affaire tout de même à un régime qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide et quelque part beaucoup plus pernicieux. Donc le régime n'est pas encore tombé. Mais si ce régime tombait, alors oui, là, je vous dirais qu'il y aurait de véritables chances d'une stabilisation plus importante de la région, avec tout de même une nuance, à condition bien évidemment que le régime successeur de celui-ci soit à tout le moins plus rationnel, plus pragmatique et soit en volonté d'entretenir de bonnes relations à la fois avec Israël et avec les États arabes de la région.
On a le sentiment, Frédéric Ancel, puisque Donald Trump ajoute aussi que les frappes en Iran continueront sans interruption tout au long de la semaine, qu'il y a un objectif visiblement très clair d'éliminer un à un tous les dirigeants restants de cette république islamiste, ceux en tout cas qui n'avaient pas été éliminés au mois de juin 2025 lors de la guerre de 12 jours.
Oui, vous avez raison, mais plutôt que le terme d'objectif, j'emploierais celui de stratégie. Pourquoi ? Parce que je pense que l'objectif suprême de Trump, au-delà du fait d'abattre le régime, je rappelle quand même que c'est assez nouveau chez lui, hein, donc c'est même très très nouveau, c'est cette volonté. Je pense qu'au-delà de ça, son objectif est celui, je vais peut-être vous surprendre, de la quasi-totalité de la communauté internationale, y compris de Pékin, c'est-à-dire faire en sorte que l'Iran ne se dote pas de l'arme atomique. Et à partir du moment où ce régime, effectivement, depuis 2002, depuis que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait pointé du doigt la dangerosité, et d'ailleurs les mensonges, de Téhéran, 2002, on est en 2026, hein, ça fait quand même très 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 très, très longtemps, le Trump avait considéré que ce régime, finalement, ne céderait pas. Mais vous aurez remarqué que jusqu'à ces dernières semaines, la porte était quand même, malgré tout, me semble-t-il, ouverte pour que Khamenei dise stop, sur le plan nucléaire, très bien, nous arrêtons. Je pense que là, Trump n'aurait pas eu besoin, enfin n'aurait pas éprouvé la nécessité de prendre quand même des risques, hein, c'est-à-dire de faire la guerre. Donc vous voyez, au-delà des personnalités qui maintenant, oui, une fois qu'on a décidé d'abattre le régime, ah oui, évidemment, on va aller pointer telle et telle personnalité. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment là le programme nucléaire qui était en ligne de mire des Américains, et encore une fois, de la quasi-totalité des États dans le monde.
Et les monarchies du Golfe, les pays arabes, ils subissent ou ils sont complices ?
Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est les deux. Parce que, en fait, Trump fait concrètement le sale boulot. Il faut bien comprendre que l'Arabie saoudite, ainsi que les autres pétromonarchies, d'abord, sont bien évidemment, et surtout pour Riyad, bien évidemment, sunnites, face à un pouvoir proactif, très très proactif même, chiite. Ensuite, il y a une rivalité pétrolière et gazière. Et puis, il y a une rivalité institutionnelle entre des régimes radicalement différents. Et puis, il y a une rivalité politico-diplomatique. Donc, tout ça fait que ces États souhaitent bien évidemment le remplacement de la République islamique d'Iran par un autre régime, mais à condition que ça ne les déstabilise pas. En gros, il faudrait que Trump le fasse de manière, entre guillemets, propre, que en évitant que l'Iran fasse de frapper cet État-là, et que ça se passe le moins mal et le plus rapidement possible.
Voilà l'analyse de Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, après la mort d'Ali Khamenei en Iran, mort confirmée par la télévision d'État iranienne cette nuit. Frédéric Ancel qui était avec Julien Langlais sur France Info.
France Info, première plateforme d'actualité, source Médiamétrie.net Ratings.
Chaque jour, vous êtes 4 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
Info Météo avec CIC. La facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur CIC.fr.
Et le temps pour ce dimanche, Patricia Charbonnier, il fait plus frais ce matin, mais les éclaircies vont finir par s'imposer.
Ah, les températures ont bien chuté cette nuit, notamment dans le nord-est et le sud-ouest. On retrouve même quelques gelées près du relief. Il fait moins de 2 degrés à Aurillac, 3 à Lille, 4 à Lyon, 5 à Paris. Toujours de la douceur cet après-midi dans le sud. Météo France prévoit encore un maximum de 18 degrés en Corse, 15 à Limoges, 14 à La Rochelle et 13 degrés à Paris. Et côté ciel, attention aux brouillards, ils sont nombreux et localement denses ce matin entre le nord-est et le sud-ouest. Cette grisaille va se dissiper. On va retrouver des éclaircies sur une bonne partie du pays. Ce sera très ensoleillé dans le sud-ouest, plus nuageux dans la partie sud-est avec quelques averses. Et le ciel va rester très nuageux aujourd'hui le long des côtes de la Manche avec un petit peu de pluie.
Merci Patricia Charbonnier. Il est presque 7h sur France Info, l'heure de retrouver William Guécosta. Bonjour William.
Bonjour Diane, bonjour à tous. L'édition spéciale continue sur France Info face à cette actualité historique des dernières heures. La guerre en Iran menée par les États-Unis et Israël, la riposte, mais surtout l'information de la nuit, la mort confirmée d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien visé par des frappes hier tout au long de ce 7-10 qui commence. Des témoignages, des reportages de nos correspondants à Téhéran, en Israël et l'expertise de tous nos spécialistes. Merci à tous d'être avec nous sur France Info de si bonne heure. Il est 7h.
France Info.